Donc bonjour à tous et à toutes. Il y en a certains que je n'ai pas salués ce matin encore. Donc bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui la série sur l'épître de Jacques. Donc ça sera le deuxième message sur cette épître, dont je découvre par l'étude voilà combien en fait elle est dense et riche. Et particulièrement à partir de l'araméen. Vous allez le voir de suite dans la lecture du texte que je vais vous proposer, donc une traduction à partir de l'araméen. Donc je propose d'abord que l'on prie ensemble pour ce message. Seigneur Jésus, comme je l'ai déjà dit ce matin, nous sommes tirés de la poussière et nous sommes des vases d'argile qui sommes brassés et travaillés par tes mains. Seigneur, pour recevoir ta gloire, recevoir ton esprit, que tu puisses à la fois agir en nous et nous montrer combien nous dépendons de toi, combien sans toi nous ne sommes rien. C'est particulièrement vrai quand on s'adresse à l'Assemblée. Donc merci d'accompagner non pas mes paroles, mais tes paroles, que ce qui est dit ce matin puisse refléter au mieux Seigneur, ta volonté pour chacun d'entre nous ici rassemblés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous allons poursuivre avec Jacques au chapitre 1, les versets 9 à 18. Et tant qu'à faire dans la lecture du texte, je vous donnerai deux, trois éléments de traduction pour bien comprendre le texte. Comme ça, je n'aurai pas à y revenir après. Vous allez voir, il y a des petites choses intéressantes. Donc, Jacques, au chapitre 1, versets 9 à 18. Que le frère humble, et dans le contexte, ça veut dire humilié, abaissé, se glorifie de son élévation. Alors, quand on dit se glorifier, ce n'est pas pour faire le vantard, mais c'est pour exprimer une joie intérieure de ce que celui qui a été abaissé soit ensuite relevé par le Seigneur. Verset 10. Mais que le frère riche se glorifie dans son humiliation, parce que comme la fleur de l'herbe, ainsi il passe. Et donc là, ce n'est pas une parole négative. C'est simplement, si on est riche, que l'on sache et reconnaissent la vanité de la richesse, puisque cette richesse, de toute façon, passera. Et en ce sens-là, que l'on se glorifie plutôt de notre abaissement, de notre humiliation. Vous voyez, les deux sont positifs, mais mettent en contraste deux réalités sociales. Car le soleil se lève dans sa chaleur, a desséché l'herbe, et sa fleur est tombée, et la beauté de son apparence a péri. Ainsi aussi, le riche flétrit dans ses voies. S'il refuse l'humiliation, l'abaissement, il périra dans ses voies. Et là, il y a un petit jeu de mots quand même à signaler. En araméen, la chaleur, c'est « ham ». Il doit y avoir l'équivalent en arabe, j'imagine. « Ham », qui renvoie vers la chaleur. Et là, le verbe « flétrir »,« hma ». « Ham »,« hma ». Les deux mêmes consonnes. Et en araméen, ça sonne immédiatement.
Et ce mot a donné, sans plaisanter, le ham, le hammam.
Oui, bien sûr. Voilà, le hammam, l'endroit avec la chaleur. Voilà, c'est voilà, exactement ça. Mais également Ham, un des trois fils de Noé. Verset 12. Heureux, celui-là est difficile. Heureux l'homme qui endure la tentation ou l'épreuve. À ce stade-là, je mets les deux traductions. Puisque c'est le même mot, autant en araméen qu'en grec. Donc, heureux l'homme qui endure la tentation ou l'épreuve, en ce que quand il a été testé, il recevra la couronne de vie, celle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment viscéralement. Le verbe qui est employé là, c'est l'amour viscéral. C'est le même qui suscite les entrailles de miséricorde. Et en araméen, « rachem », à nouveau le « ham » qui apparaît. Donc il y a vraiment un jeu de mots entre le « ham » de la chaleur, « flétrir »« hma » et l'amour viscéral, rachem. Il n'y a qu'en araméen qu'on entend ça. Que nul humain ne dise quand il est tenté ou éprouvé. Ah, non. Cette fois, je dois choisir, vu le contexte, c'est bien tenté et non pas éprouvé. Que nul humain ne dise quand il est tenté, par Dieu je suis tenté. Parce que si ça avait été l'épreuve, je dirais oui, Dieu m'éprouve. Et là, ça serait positif. Donc là, maintenant, c'est le versant négatif. Que nul humain ne dise quand il est tenté, par Dieu je suis tenté. Car Dieu n'est pas tenté par les choses mauvaises, par le mal. Et lui, Dieu, ne tente nul humain. Maintenant, je vais le relire de manière glosée pour bien comprendre. Que nul humain ne dise quand il est tenté, par Dieu je suis tenté. Car Dieu éprouve, certes, par des épreuves formatrices, mais n'est pas tenté par le mal. Et lui, Dieu, il éprouve, certes, nos cœurs, mais ne tente jamais aucun humain. Pour bien marquer la différence entre l'épreuve qui nous forme et la tentation qui vient de nous, pas de Dieu. Mais chacun est tenté par sa propre convoitise et convoite, et il est entraîné au loin, sous-entendu par sa convoitise. Sa convoitise l'entraîne au loin. Et la convoitise conçoit et enfante le péché. Or le péché, quand il devient mûr, enfante la mort. Relevez cette analogie avec la conception et la naissance. Verset 16. Ne soyez pas errants, mes frères bien-aimés. Et là encore, il y a une note de traduction que vous ne verrez pas dans vos traductions françaises. Donc je lis le verset suivant et je fais un petit commentaire. Ne soyez pas errants, mes frères bien-aimés. Tout don bon et accompli descend d'en haut du Père des... Voilà, vos traductions disent des lumières. Ce n'est pas ce que dit l'araméen. Du Père des luminaires. Je vais expliquer après. Celui auprès de qui il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Explication. Et là, c'est très beau ce que dit Jacques. L'errance, en grec comme en araméen, c'est le mot qui sert pour qualifier les planètes, qui dans le grec ou l'araméen sont les astres errants. Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, quand on les observe depuis le ciel, ça fait des trajectoires avec des boucles. C'est errant. Alors que le Soleil et la Lune, les luminaires, forment des trajectoires harmonieuses vues depuis la Terre. Et donc là, Jacques est en train de dire, et donc, vous avez dans vos traductions le Père des Lumières. Lumière en araméen, c'est Nuhra. Alors que le mot qui est employé ici, c'est Nahira. C'est bien la même racine, mais c'est le mot qui est employé dans Genèse 1, au quatrième jour de la création, pour parler des luminaires, le grand luminaire, le soleil, et le petit luminaire, la lune. Et donc maintenant, je vous restitue ça en tenant compte de ce que je viens de dire. Ne soyez pas comme des astres errants, mes frères bien-aimés, car tout don bon et accompli descend du Père des Lumières, c'est-à-dire celui qui, au contraire, a établi l'harmonie céleste. Père auprès de qui il n'y a pas de changement, je vous parlais de ces boucles bizarres qu'avaient observées les Grecs, ni ombre de variation. C'est étonnant ce contraste entre les luminaires et les astres errants. Ça veut dire quoi ? Celui qui marche et cède aux tentations et marche par sa convoitise est comme un astre errant. Alors que celui qui endure l'épreuve et résiste à la tentation est comme un luminaire qui gravite autour du Père Céleste, avec une marche harmonieuse. C'est étonnant comme image. Et enfin, le verset 18. C'est lui, donc Dieu, qui l'a voulu ainsi. Et il nous a enfantés par la parole, non pas de vérité, c'est un autre mot qui est employé en araméen ici, la parole de droiture ou d'intégrité. Donc, ça renvoie directement à la pratique et à la posture éthique, morale, et non pas à un dogme. Il nous a enfantés par la parole de droiture, intégrité, afin que nous soyons les prémices de ses créatures. Donc vous voyez, d'emblée, rien que par la traduction, il y a quand même un certain nombre de choses que l'on note dans le texte. Donc du coup, je ne vais pas dans la suite revenir sur ce que je viens de dire au niveau des traductions. Hein? Mais je préférerais le donner d'emblée dans la lecture du texte. Alors nous allons commencer par les versets 9 à 11. Donc le frère humilié, abaissé, se glorifie dans son élévation, et que le frère, au contraire, riche, se glorifie dans son humiliation. Ce point-là que j'aimerais développer. La première chose à noter, c'est que dans le royaume de Dieu, Dieu renverse l'ordre naturel. Ça, c'est un motif qui court dans l'ensemble de la Bible. Il renverse l'ordre naturel. Souvent, l'ordre spirituel n'est pas l'ordre naturel. Alors, je prends un exemple, hein. C'est souvent le cadet qui hérite à la place de l'aîné. Caïn, Abel a la bénédiction, il est le cadet. Jacob et Ésaü. Ésaü est l'aîné, mais c'est Jacob qui hérite de la bénédiction. Renversement. Mais ce n'est pas de ce renversement-là dont j'aimerais parler ce matin, et ce n'est pas de celui-là dont parle Jacques ici. Il parle d'un renversement entre riche, pauvre, libre, esclave. Alors on en trouve là encore plein d'exemples dans la parole. Dans 1 Samuel 2, c'est le cantique d'Anne. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. Il relève le misérable de la poussière. Renversement de l'ordre social. Dans Luc 1, le cantique de Marie. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Encore plus percutant et piquant, dans Luc 16. Jésus dit, vous cherchez aux religieux, hein, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes, ce qui est encensé par les hommes, ce qui est acclamé par l'homme est une abomination aux yeux de Dieu. Et combien ça c'est vrai dans le monde des églises. 1 Corinthiens 7, voilà, je pourrais en prendre plein, mais je pensais encore à 1 Corinthiens 7. L'esclave appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et inversement, le libre appelé par le Seigneur est un esclave de Jésus. Vous voyez, ce renversement de l'ordre naturel et la perception spirituelle que l'on a des choses. Alors évidemment, quand on confond les deux ordres, naturel et spirituel, eh bien on va prendre une élévation naturelle comme un signe de bénédiction spirituelle. Évangile de la prospérité. Voilà, confusion des ordres. Dieu renverse les ordres. Il va même choisir les choses faibles du monde pour confondre les fortes, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Donc vous voyez, il y a un renversement de l'ordre. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ainsi? Et c'est tout l'objet, je pense, du passage que l'on vient de lire dans l'épître de Jacques. Pourquoi fait-il ainsi? À cause de notre chair rebelle. À cause de notre chair rebelle. Autrement dit, ce renversement d'ordre vise à une seule chose, à la crucifixion de la chair. Sinon, comme je l'ai dit, on confond les deux ordres, naturel et spirituel. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais ça veut dire quoi concrètement? On ne cherche plus la gloire de l'homme. On ne cherche plus l'approbation de l'homme. On vit devant le Seigneur. Je pense toujours, quand je pense à cela, à Élie, qui a été convoqué par le roi Akab, qui en voulait à sa vie. Et lorsqu'Élie paraît devant Akab, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel devant qui je me tiens. Akab, c'est comme s'il n'existait pas. L'Éternel devant qui je me tiens. C'est pas parce que tu m'as convoqué que maintenant je vais trembler devant toi. L'Éternel devant qui je me tiens. Toujours porter dans notre mort la mort, dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. C'est également une autre manifestation de la chair crucifiée. On peut être riche par conséquent de plein de manières. Riche matériellement, riche de connaissances, riche de diplômes, riche de reconnaissance humaine. Voilà, toutes ces choses doivent être crucifiés. Donc ce qui nous élève au lieu des hommes, en fait, c'est notre chair. Et il n'y a rien de plus terrible qu'une chair paillarde qui devient une chair religieuse. J'en reparlerai juste après. Il n'y a rien de plus terrible que ça. Donc il faut que la croix et l'œuvre de la croix nous abaisse pour que l'Esprit puisse nous relever. Il n'y a pas de vie de résurrection par l'Esprit s'il n'y a pas de mort avec Jésus. Ça, il faut sauter cette histoire de la, faut ôter cette histoire de la tête. Beaucoup cherchent la vie de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit. Mais en fait, quand on observe bien, utilisent toutes sortes de stratagèmes pour éviter la mort de la croix. Or, il n'y a pas d'Esprit véritable s'il n'y a pas mort de la crucifixion de la chair par la croix. Les deux sont absolument inséparables. Je ne vais pas développer cet aspect aujourd'hui, parce qu'en fait, je suis déjà en gestation, si je puis dire, pour le message du mois prochain, qui concernera la Pentecôte, et dont je reviendrai en détail sur ces questions-là. Hein? Mais ça me travaille déjà. Mais ce sera pour le mois prochain. Donc le thème central de la Nouvelle Alliance, c'est le dépouillement, l'humiliation, l'épreuve, qui sont autant d'occasions pour la mise à mort du moi naturel. C'est le cœur de l'Évangile. On lit les paroles de la Nouvelle Alliance, on aspire aux promesses des paroles de Jésus, des paroles de Paul et les autres. On y aspire et on ne les vit pas si la chair n'est pas crucifiée. Le pendant de la crucifixion de la chair, donc l'abaissement nécessaire et volontaire, si on veut suivre Jésus, c'est le fruit de l'Esprit, qui est la manifestation de l'Esprit après ce dépouillement. Après avoir dit, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, Paul enchaîne immédiatement en disant, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Un très bel exemple dans la première alliance, l'Ancien Testament, de ce dépouillement et de ce revêtement, moi qui me touche à chaque fois beaucoup, c'est Joseph, qui à 17 ans a été vendu par ses frères pour devenir esclave, et à 30 ans, 13 ans après, s'est retrouvé à la droite du Pharaon, et avec le sort de ses frères qui voulaient le mettre à mort entre ses mains. Vous voyez ce renversement? On va dire que Joseph était, tel que je le lis en tout cas, un peu comme un jeune coq, un petit peu prétentieux à l'égard de ses frères. Et il a fallu 13 ans pour que Dieu le brise, pour ensuite pouvoir en un jour l'élever à la droite de Pharaon. 13 ans. Il en est qui pense que la vie de l'Esprit se manifeste avec une expérience, comme ça, de manière instantanée. Ça aussi, j'y reviendrai le mois prochain. 13 ans pour Joseph. 40 ans pour Moïse, avant qu'il puisse délivrer Israël de la main de l'Égypte. 3 ans et demi en présence de Jésus pour les apôtres. 3 ans et demi avant qu'ils puissent recevoir l'Esprit. Donc, vous voyez, ça ne vient pas comme ça. Et donc, le royaume renverse, comme je l'ai dit, l'ordre naturel. Là où la chair cherche l'élévation, l'Esprit nous humilie devant Dieu. Là où la chair se vante de ses richesses, de toutes sortes, de son statut, de ses connaissances, de ses capacités, l'Esprit se glorifie dans nos épreuves. Là où la chair refuse la souffrance, l'Esprit, par l'Esprit, nous endurons la souffrance avec persévérance. Là où la chair produit des œuvres mortes, des œuvres religieuses, l'Esprit porte en nous du fruit vivant. Là où la chair réagit, s'approprie, se défend, se justifie, l'Esprit en nous donne ses faces et bénit. Et donc, il y a dans ce texte, les deux versets que j'ai lus là, dans Jacques 1, versets 9 et 10, il y a un paradoxe permanent. Le pauvre abaissé se glorifie, fruit de l'Esprit, mais le riche, naturellement glorifié aux yeux des hommes, doit être abaissé et s'effacer devant le Seigneur pour être riche en Jésus et de Jésus. On a donc une dynamique de conversion permanente. Le pauvre apprend à recevoir son élévation de Dieu sans s'enorgueillir, et le riche apprend à embrasser son abaissement comme un chemin de vie pour lui. C'est là que ça devient intéressant, en particulier quand on lit les béatitudes dans Matthieu 5, 6 et 7. C'est très étonnant quand on regarde les béatitudes, parce qu'on se rend compte en fait que le « heureux serez-vous quand vous serez persécutés ». En fait, les béatitudes ne sont possibles que si la chair a été crucifiée. Et avec quoi va-t-il mettre cela en contraste? Juste dans Matthieu 5, 6, 7, avec les religieux qui, pour l'apparence, prient devant les hommes, donnent des aumônes devant les hommes et jeûnent devant les hommes. C'est étonnant qu'ils mettent en contraste dans les mêmes discours, Matthieu 5, 6, 7, les deux réalités. Pourquoi? Parce que si la chair n'est pas crucifiée pour vivre les béatitudes, voilà que la chair religieuse va imiter l'extérieur de la vie chrétienne en donnant des belles prières pour être vues de tous, en donnant des aumônes, vous avez bien vu, hein, et en jeûnant, et avec une face livide pour bien montrer aux hommes que l'on jeûne. La chair religieuse imite la vie chrétienne. Pourquoi? Par refus de la croix. Et les béatitudes, heureux serez-vous, heureux serez-vous, n'est possible que si la chair est crucifiée. Et donc c'est étonnant que d'emblée, dès le début de son ministère, Jésus, de manière implicite, annonce déjà l'œuvre de la croix. Et là, les disciples, je pense, ont été dévastés. Ils se sont dit, oups, mais c'est pas possible. Et il va falloir plus de 3 ans pour que Jésus les y amène. Mais il leur a d'emblée planté le décor et le but. Alors nous allons poursuivre. Je vois que l'heure avance. Au verset 12, voilà le heureux des béatitudes. Heureux l'homme qui endure l'épreuve ou la tentation, car quand il a été testé, c'est après avoir été testé, hein, c'est pas avant, il reçoit ou recevra la couronne de vie, celle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment viscéralement. Ceux qui l'aiment avec leurs tripes. Hein, on est loin du bon sentiment, c'est un attachement viscéral. Et évidemment, ce qui choque dans ce verset, c'est le « heureux l'homme qui endure la tentation ». Parce qu'en général, on n'aime pas être tenté et on n'aime pas être éprouvé. Alors, ça nous fait plutôt souffrir. « Heureux l'homme qui endure l'épreuve ou la tentation ». Car cette résistance à la tentation ou cette soumission à l'épreuve s'accompagne de la joie de l'esprit. Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. 1 Pierre 4. Si vous êtes outragés pour le nom de Jésus, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Alors maintenant, vous voyez, il y a constamment cette ambiguïté entre la tentation et l'épreuve. Parce que c'est le même mot, comme je l'ai dit en araméen et en grec. Alors pour bien comprendre la différence, notre chair nous tente pour qu'on réponde à sa convoitise. Et j'ai même mis entre parenthèses, afin que l'on nourrisse la bête, notre bête intérieure. Hein, notre chair, c'est un peu comme notre démon intérieur. Et cette chair, ce démon intérieur, n'est pas quelque chose que l'on peut chasser. Il doit être crucifié. Parce que si elle ne l'est pas, elle va attirer les bestioles. Vous voyez? Et là, on se met à nourrir la bête. Je prends des images exprès assez crues pour bien comprendre ce que ça veut dire. Alors que Dieu nous éprouve afin que notre chair devienne ou demeure crucifiée pour que la vie de l'esprit se manifeste. Un exemple de cela, c'est le contraste entre Judas et Pierre. Parce que les deux ont accompagné Jésus pendant 3 ans, mais la réalité de leur vie intérieure a été manifestée juste avant la croix. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, la convoitise de l'argent était dans son cœur, il ne s'en est pas débarrassé jusqu'à vendre le Fils de Dieu. Alors que Pierre a présumé de ses forces, a même renié le maître, mais il a fini brisé quand il a entendu le coq. Vous voyez? Les deux, leur Leur état intérieur a été manifesté à la veille de la croix. Les deux ont été manifestés. L'un à la perdition, Judas, qui est appelé le fils de perdition, et l'autre à salut, Pierre. Et ça, ça veut dire quoi? De la même manière qu'il y a épreuve et tentation, il y a souffrance et souffrance. Et là encore, il ne faut absolument pas confondre les deux. Il y a la souffrance sanctifiante, qui est celle qui résulte de l'épreuve que Dieu permet, dans laquelle Dieu nous plonge. Et c'est ce que nous avions déjà vu là, au premier message sur l'épître de Jacques, les versets 2 à 4. « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, afin que vous soyez mûrs et complets. » Est-ce que nous voyons vraiment les épreuves comme un sujet de joie, comme une occasion que le Seigneur nous donne de dépendre encore plus de lui, de nous accrocher à lui, de nous attacher à lui? C'est toute l'image, je la cite souvent, du Deutéronome. Relisons le Deutéronome. « Je t'ai emmené dans le désert, je t'ai fait éprouver la faim, la soif, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et afin que tu t'attaches à moi. » L'épreuve du désert, ce n'est pas pour nous faire mal. L'épreuve du désert, c'est pour qu'il nous attache à lui. Mais pour la majorité des Israélites, le désert a été le lieu des tentations, des murmures, des reproches, de l'incrédulité. Relisons 1 Corinthiens 10, Hébreux 3 et 4. Voilà. Pour les uns, une épreuve pour s'attacher à Dieu. Et pour les autres, dans la même épreuve, ça devient une tentation, parce qu'on ne renonce pas à la convoitise. « Oh, les oignons d'Égypte! Combien nous étions mieux en Égypte !» Hein? Et combien on pourrait dire « Oui, je suis chrétien, mais finalement, combien j'aurais... » Voilà, c'était pas si mal que ça dans le monde. Donc, vous voyez, le désert, c'est le lieu de la manifestation de qui nous sommes. Et si on garde la convoitise, on tourne en rond dans le désert et on y meurt. Alors que nous sommes appelés à traverser le désert, franchir le Jourdain, qui, je le rappelle, est le lieu de la circoncision, et entrer dans Canaan, c'est-à-dire la marche par l'Esprit. Et c'est le désert qui fait cette œuvre-là, et Dieu qui fait cette œuvre dans le désert. Mais pour les uns, c'est une épreuve qui mène à la vie. Pour les autres, ce sont des tentations sans cesse qui mèneront à la mort. Donc, comme je l'ai dit, il y a une souffrance sanctifiante, parce que l'épreuve qui vient de Dieu fait souffrir. Elle fait souffrir, parce que ça va contre notre volonté, qui aimerait que notre chair vive. Mais comme on a été touché et rencontré par le Seigneur, on accepte l'épreuve, même si ça fait mal, parce que de là va résulter la vie de l'esprit. Mais il y a également une souffrance charnelle. Et celle-là, elle est liée à la tentation, à laquelle on ne renonce pas. Et cette souffrance, elle est produite par notre résistance d'une chair qui refuse de mourir et qui va trouver toutes sortes de raisons pour cela. Elle va se victimiser, elle va s'endurcir, elle va se révolter. Mais elle va toujours trouver des excuses. Ça, c'est la chair qui souffre. C'est une souffrance charnelle. Et vous avez des gens comme ça qui portent sur eux la souffrance, mais pas la souffrance de la croix, la souffrance de l'auto-apitoiement. C'est celle de Judas, hein. C'est ce qui a perdu Judas. Le premier exemple de la Bible, c'est évidemment Caïn. Lorsque son sacrifice n'a pas été agréé par Dieu, comme on dit en français, il a fait une tête, il a fait une tronche. Vous voyez? Parce que son sacrifice, quoi, n'avait pas été validé par Dieu. Et de cette réaction-là est née la pensée du meurtre à l'égard de son frère Abel. Genèse 4, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et Dieu lui dit, le péché est tapis à ta porte, mais toi domine sur lui. Et on peut traduire, le sacrifice pour le péché est à ta porte. Autrement dit, le sacrifice de ton frère est prêt également pour toi. Vous voyez? Mais fallait-il encore que Caïn s'humilie pour être au bénéfice du sacrifice de son frère, qui était un sacrifice d'agneau. Et Jacques dira plus tard dans Jacques 4, « D'où viennent les luttes? Elles viennent de vos passions en guerre dans vos membres, car vous convoitez et ne possédez pas. » Il y a bien des luttes dans les milieux chrétiens, entre chrétiens ou entre églises, qui résultent en fait d'une convoitise, d'une quête vaine de gloire humaine, de reconnaissance par les autres, par les autorités, par ceci, par cela. Et en fait, ça traduit en fait tout simplement que la convoitise n'a pas été crucifiée. Et on cherche encore auprès des hommes ce que l'on ne devrait recueillir que de la part de Dieu. Et donc, cette souffrance charnelle est une souffrance égocentrée. Et elle naît d'une résistance à l'œuvre de la croix, un refus de se laisser dépouiller. Et elle produit de l'amertume, des plaintes, de la colère, de la fuite, ou au contraire, le désir de dominer les autres. Ça vient aussi de la chair. Parce que j'ai souffert, on compense en dominant les autres. Et donc, c'est quand on résiste à cela et qu'on accepte la souffrance qui vient de l'épreuve de Dieu, que nous apprenons à aimer Dieu viscéralement. Pas avec des belles formules pieuses, mais comme je l'ai dit, avec les tripes. Ça, c'est important, parce que sinon, nous allons entrer dans un culte de l'apparence. Comme il est dit dans Colossiens 2, un culte de l'humilité. Donc, on devient pharisien, en fait. On nettoie l'extérieur, avoir une belle apparence, on baisse un peu la tête pour être bien pieux et bien humble. Mais en fait, à l'intérieur, c'est bourré de convoitise, c'est bourré de... Voilà. Le culte de l'apparence. Maintenant, un autre point, donc les versets 13 et 14. Que nul humain ne dise quand il est tenté, par Dieu je suis tenté. Car Dieu n'est pas tenté par le mal et ne tente personne. Et là, il y a un point important. Quand on ne fait pas la différence entre l'épreuve et la tentation, et que on résiste à l'œuvre de la croix en cédant à la tentation, par notre convoitise, on se met à tordre l'image de Dieu. Et on fait de Dieu le responsable de notre souffrance charnelle. Alors que le responsable, c'est nous, parce que nous ne voulons pas laisser le Seigneur crucifier notre chair. Et on commence à tordre l'image du Père Céleste. Ça doit vous rappeler quelque chose, ça. Comment est-ce que l'humanité est tombée ? Dieu a-t-il réellement dit ? Sous-entendu, Dieu vous cache quelque chose. Il y a quelque chose qu'il n'a pas dit. Il y a quelque chose qu'il veut garder pour lui. Mais si vous m'écoutez, vous deviendrez comme Dieu. Et c'est ça qu'il voulait vous cacher. C'est ça auquel il ne voulait pas que vous parveniez. Voyez bien que Dieu a une pensée tordue, une pensée perverse. Il vous a caché des choses. Vous voyez, on se met à tordre la perception que l'on a de Dieu. Tout ça parce qu'on ne veut pas que la convoitise en nous meure. On soupçonne Dieu et ce soupçon tordu entraîne automatiquement une théologie perverse. C'est-à-dire une image de Dieu, un Dieu de colère, prêt à nous frapper au moindre écart, par exemple. Ou alors au contraire, un Dieu bisounours, qui nous laisse tout passer. Hein? Comme le dit Paul dans Romains 6, « Pécherions-nous afin que la grâce abonde ?» Et Paul dit surtout pas. La marche avec Dieu, c'est pas une permissivité à l'égard du péché. Bien au contraire. C'est tout le sens de Romains 6. Si nous devenons une même plante avec lui en sa mort, alors nous deviendrons avec lui une même plante dans sa résurrection. Mais le mot qui est important dans ce que je viens de citer, c'est le « si ». Si nous devenons avec lui une seule plante en sa mort, alors nous deviendrons avec lui un dans sa résurrection. Et là, on trouve un chemin d'une grâce que dénonce Bonhoeffer, par exemple, une grâce facile, bon marché, qui nous permettrait de concilier la grâce de Dieu et la vie dans la convoitise et le péché. Il manque quelque chose entre les deux. Ça s'appelle la croix. Dans Romains 6, là encore, on ne peut le comprendre que par la croix. En dehors de la croix, Romains 6 ouvre la porte à toutes sortes de dérives. Et comme je l'ai dit, le soupçon que l'on adresse à Dieu engendre automatiquement une théologie perverse. Dieu devient celui qui empêche, celui qui punit, celui qui a même provoqué la chute. Comme des fois on entend ça, mais comment est-ce que Dieu a permis qu'il y ait un serpent qui tente Adam et Ève? Et le pécheur se pense victime d'un Dieu exigeant, un Dieu absent. Ou alors qu'il est victime de sa propre rébellion, d'une chair non crucifiée. Donc il faut apprendre à discerner ce qui est légitime et ce qui est illégitime. Et donc là, et à nouveau, c'est ce verset, c'est Dieu qui me tente. Il y a là un mécanisme d'inversion diabolique. Alors que Dieu est source de lumière, il devient pour la chair non crucifiée une source de confusion et d'interdit. Il y a souvent ça, on ne voit que Dieu qu'au travers des interdictions. Au lieu d'être un donateur de vie, voilà qu'il est celui qui me prive de mes plaisirs, sous-entendu charnel. Au lieu d'être perçu comme fidèle et stable, voilà que Dieu est changeant et trompeur. Et enfin, au lieu d'être un Dieu qui m'éprouve afin de me purifier, voilà que c'est celui qui me tente pour me faire tomber. Je viens de décrire le diable, en fait. Vous voyez ? On confond Dieu et le diable. Comment pense-t-on pouvoir être rempli de l'esprit quand on a une telle perception de Dieu ? Vous voyez ? Ça sera l'objet du message dans un mois. Donc, la repentance, la véritable repentance, consiste à réaliser qu'il y a souffrance et souffrance, et qu'il y a une souffrance dont on ne peut pas se revendiquer devant Dieu, c'est celle qui vient d'une chair insatisfaite et non crucifiée. Il faut absolument faire la différence entre celle-là, qui nous attriste, parce qu'elle nous semble frustrée, et la souffrance qui vient de l'épreuve, et à l'issue de laquelle on sait qu'on va avoir une révélation supérieure, nouvelle, de la part de Dieu et de qui il est. Voilà, je ne vais pas plus développer ça, parce que je le ferai, donc, comme je l'ai dit, le mois prochain. Mais c'est un point important. Épreuve, souffrance, tentation, souffrance versus souffrance. Car Dieu nous éprouve pour nous faire grandir, mais jamais pour nous faire tomber. Jamais. Donc il y a un gouffre entre l'épreuve qui révèle le Dieu et la tentation qui nous séduit et qui vient de nous-mêmes. Et dans le glissement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Dieu qui me tente. On se met accusateur de Dieu, parce qu'en fait c'est le discours du diable lui-même. Et il y a derrière cela un refus de la croix, car si je souffre, c'est que Dieu m'en veut, ou Dieu ne m'aime pas. Ça, c'est un point très important. La perception que l'on a de l'amour du Père est fortement conditionnée par le fait que notre chair, la convoitise, soit vivante ou pas. On ne peut pas percevoir l'amour de Dieu, être rempli de l'Esprit, tant que je pense que Dieu est celui qui me frustre dans mes convoitises. Et donc, ça renvoie à nouveau à cela. L'amour de Dieu n'est perçu que si la chair est crucifiée. Mais il y a également, derrière ce glissement d'accusation, une auto-justification. Je suis tenté, mais c'est Dieu qui m'a mis dans cette situation. C'est sa faute. Ou alors une victimisation spirituelle. Après tout, Dieu aurait pu m'empêcher d'entrer dans la tentation. Ben oui, mais n'est-ce pas ce que l'on prie dans le Notre Père ? Mais Dieu n'a pas répondu. Tout ça entre guillemets. Ça, c'est la chair qui parle. On trouve de tels échos dans... Je prends un seul exemple pour gagner du temps dans l'Ancien Testament. C'est un cri de Dieu à l'égard de Job, dans Job 40. « Vas-tu annuler mon droit ? Vas-tu me condamner afin de te justifier toi-même » C'est ce que Dieu dit à Job quand il était dans la plainte. « Mais je n'ai rien fait, j'ai pratiqué la justice. » Dieu lui dit, mais tu vas me condamner afin de te justifier ? Le vase va-t-il dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Pensons à nos vies, tout ce que l'on a pu vivre, tout ce qui nous a, j'allais dire, les cartes qui nous ont été données à la naissance. Pensons à tout cela. Est-ce qu'on lève le poing en disant, mais pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Ou alors on réalise, oh, il y a un dessein qui me dépasse largement dans la manière dont tu as pétri et modeler l'argile que je suis. Voilà, et je vais terminer par le dernier passage, qui est assez frappant, puisqu'il est question de deux naissances, deux enfantements. Le premier, c'est la convoitise au verset 15, qui conçoit et enfante le péché. Or le péché, quand il devient mûr, enfante la mort. et le deuxième au verset 18. C'est Dieu qui l'a voulu et il nous a enfantés par la parole de droiture ou d'intégrité, donc on dira la parole droite et intègre, afin que nous soyons les prémices de ces créatures. Et donc il y a ce contraste entre un enfantement au verset 15, un enfantement au verset 18. Donc là, je vais essayer d'expliquer quelque chose avec les mains, qui n'est pas simple. Souvent, dans un passage donné, quand on a la répétition d'une idée un peu plus bas, en fait, il y a une structure qui s'appelle une structure chiastique, une symétrie, et immédiatement le réflexe, quand on a ça, c'est d'aller chercher ce qu'il y a au centre. Or, qu'est-ce qu'il y a au centre ? Tout don bon et accompli descend du Père des Lumières. Tout vient de Dieu. Rien ne vient de nous. C'est ça qui est la pensée centrale entre l'enfantement de la chair qui mène à la mort et l'enfantement de l'esprit qui mène à la vie. Et la clé pour passer de la mort à la vie, c'est que tout don vient du Père céleste. Or, que fait le religieux ? Il essaye de produire par lui-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il imite, il remplit sa tête, il fait des tas d'œuvres, il plonge dans l'activisme, il puise en lui-même. Et à force de marcher, il se fatigue et ne trouve plus de vigueur en lui. À un moment donné, on s'épuise à faire cela. Et le Seigneur attend. Il attend que l'on s'épuise afin qu'à un moment donné, on dise « Je suis épuisé ». Manifestement, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et ensuite, on commence à chercher Dieu. Combien d'églises, avec les jeunes convertis, les envoient dans des tas d'activités, évangéliser, partir, courir à droite, à gauche. Et au bout de quelques années, ces jeunes-là s'épuisent. Pourquoi ? Parce qu'on les a incités à faire avant que d'être. Avant que de trouver le repos en Jésus, pour que Jésus porte le joug et pour que lui accomplisse au travers d'eux. Mais non, on est dans le faire parce que ça rapporte à l'Église des nouvelles âmes, de l'argent. C'est ça les motivations qu'il y a derrière. On les épuise, les jeunes, et au bout de quelques années, c'est comme un sachet de thé et on renouvelle par de nouveaux jeunes qui arrivent et l'Église fonctionne comme ça. Quel drame ! Quel drame ! Et par la grâce de Dieu, certains de ceux-là, épuisés, vont enfin s'arrêter et commencer à lever les yeux vers Dieu pour dire, mais il y a manifestement quelque chose que je n'ai pas compris, donc maintenant fais grâce. Donc il y a un chemin de vie par l'épreuve, il y a un chemin de mort. Il y a un enfantement à la vie et un enfantement à la mort. Et une des très bonnes manières religieuses d'empêcher l'empêchement à la vie, c'est de croire que ce passage de la mort à la vie est instantané et non pas le résultat d'un processus. C'est comme si on sautait directement de l'Égypte en Canaan, en court-circuitant le désert. Et je l'avais dit, je crois, la dernière fois, vraiment un des versets qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps, c'est dans Jean 3. Il a été fait allusion à Jean 3 tout à l'heure. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Et là, ce qui m'a frappé, c'est dans le désert. La croix, elle est dans le désert. Elle est dans le désert. Donc, il faut passer par la croix dans le désert pour entrer dans Canaan. Sinon, on regarde les promesses de la parole de loin. Et on les proclame, on fait de la méthode Coué. Mais en fait, on ne les vit pas. On ne les vit pas, pourquoi ? Parce qu'on refuse la croix. Alors, on tourne autour. Mais on ne va jamais à la croix pour ensuite entrer dans Canaan. Donc, l'esprit enfant de la vie, si la parole est reçue dans l'obéissance, alors que la chair enfant de la mort, si la convoitise est nourrie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin au départ, vivre selon la chair, c'est comme être un astre errant, une planète qui erre dans le cosmos. Mais marcher par l'esprit, c'est éclairer, être éclairé par le Père qui a créé les luminaires, le soleil et la lune. Car les seules sources de lumière, c'est ce qui a été lu en introduction avec Apocalypse chapitre 21. C'est la gloire de Dieu qui éclaire et l'agneau, c'est le flambeau d'où jaillit la gloire du Père. Et enfin, le dernier point, il nous a créés, il nous a enfantés afin que nous soyons les prémices de ces créatures. C'est intéressant parce que c'est un terme qui est par ailleurs employé dans les Lévitiques pour les offrandes. Hein, comme il est dit dans Romains, nous offrons dans un culte volontaire à Dieu. Donc ici, pour reprendre cette image, comme des prémices pour Dieu. Le prémice, c'est ce qui annonce la moisson. Le grain qui meurt, c'est ce qui annonce la gerbe de grain. Un grain devient 10, 30, 100. C'est ça le prémice. Ça commence petit et c'est démultiplié. L'eau que Jésus donne devient une source d'eau abondante. Les prémices, c'est la première étape. S'il n'y a pas la première étape, l'eau que je reçois, il n'y aura pas de source abondante. Si le grain de blé ne meurt, Jean 12, il ne donnera pas les gerbes de blé. Ça, ce sont les prémices. S'il n'y a pas les prémices, qui résultent de l'enfantement véritable par l'esprit, il n'y aura pas la gerbe de blé, il n'y aura pas l'eau vive après. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jacques, dans toute la suite de son épître, va fortement insister sur la mise en pratique de la parole et pas simplement l'écoute, la théorisation, la théologisation, tout un tas de raisonnements que l'on met en tête, en place et dans notre tête, en fait, pour ne pas obéir à la parole. Donc Jacques insiste sur la mise en pratique de la parole. C'est celle qui nous fait mal. Parce qu'essayons de mettre en pratique les béatitudes, on va vite se rendre compte que quelque chose résiste en nous. Mais ça nous ouvre le chemin vers la croix. Donc pas de fruit de l'esprit veut dire refus de la croix. Il n'y a pas à tortiller autour de ça. Et la chair religieuse, en refusant la croix, veut mettre en place tout un tas de stratégies compensatrices dont je parlerai le mois prochain. Donc retenons cela, c'est pour moi la pensée la plus importante qui me poursuit depuis longtemps. Le désert est certes un lieu où j'ai faim, un lieu où j'ai soif, un lieu où je suis mis à nu, mais c'est également le lieu où je reçois la parole de Dieu, hein, celui qui a ma parole et qui la garde, celui qui m'aime. C'est le lieu où on reçoit la parole de Dieu vivante, c'est-à-dire vivifiée par l'Esprit, et c'est le lieu surtout de l'attachement au Seigneur qui nous permet ensuite de sortir du désert et d'entrer dans les promesses que l'on trouve dans les textes de la Nouvelle Alliance. Sinon, on regarde cela de loin. Un, on ne les comprend pas, ou on les comprend de manière naturelle et charnelle. Et deux, surtout, on ne les vit pas. Et si on persévère à ne pas les vivre tout en les voyant, on finit par imiter, parce qu'il faut bien sauver la face dans l'Église. Et donc on prend l'apparence de la piété, mais on en renie en fait ce qui fait la force. Et la force, c'est la vie de l'Esprit en nous. Et cette vie de l'Esprit résulte de la croix. Voilà, que le Seigneur nous fasse grâce, à moi-même déjà et à chacun dans l'Assemblée, pour que cela devienne réalité dans chacune de nos vies.